you're incomprehensible to what me and my pen goes through. Bonjour à tous et merci pour être à l'écoute de Radio Galère. Comme tous les jeudis de 18h à 19h, nous allons faire une émission psychodébat. Pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que c'est un psychodébat, c'est quelque chose qu'on fait depuis 25 ans à Marseille, dans des lieux comme la librairie Maupetit, les points bascules, les FNAC, et on a eu plein d'endroits qu'on a fait des psychodébats. Et en quoi consiste tout simplement qu'on lance le débat sur une thématique. Aujourd'hui, la thématique, c'est les relations toxiques, les personnes toxiques. Et donc, on lance le débat. Une fois qu'on va le lancer ici avec toute l'équipe qui est là, c'est à vous à jouer, c'est à vous à poser des questions, c'est à vous à nous dire des choses. Et en général, il n'y a personne qui a la vérité sur quelque chose. Chacun de nous, on a des opinions et ces opinions, elles peuvent être partagées ou pas. Donc les personnes toxiques, évidemment, on dit toujours que les autres sont tous toxiques et des fois on oublie que nous-mêmes, on peut être toxique avec soi-même. Donc peut-être je commencerai pour une première histoire et en même temps je vais présenter l'équipe qui est avec moi à la radio aujourd'hui. Il y a Laura.
Bonjour.
Et il y a Angelina. Bonjour Angelina.
Bonjour.
Sarah.
Bonjour.
Et Sophie.
Bonsoir.
Donc, on a une équipe qui est là. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer aussi. Sarah, il va vous dire tout de suite quelque chose qui est important pour nous. Vous donner le numéro de téléphone de la radio. Si vous souhaitez téléphoner, poser une question sur les personnes toxiques, c'est le moment.
Sarah. Alors, bien évidemment, vous nous retrouverez tous les jeudis sur la radio, la station 8.4, à 18h. Et le numéro pour nous contacter par téléphone en direct, c'est 04 91 08 28 10.
Voilà, on va commencer donc cette partie d'émission pour commencer à parler un petit peu des personnes toxiques. Les personnes toxiques, évidemment, bien souvent, ils manipulent les autres. Bien souvent, ils passent ce type de choses. Vous avez parmi les personnes toxiques, vous avez celui qui va vous dénigrer. Vous avez aussi les personnes toxiques, c'est qu'ils vont se autodétruire parce qu'ils vont dire tout ce que j'ai fait c'est mauvais, tout ce qui ne va pas c'est ma faute, etc. Bien souvent aussi, les gens qui sont dépressifs, des fois, ils vont être toxiques avec la famille parce qu'ils veulent qu'on s'occupe d'eux, donc inconsciemment, on va avoir des personnes toxiques. Bon, les gens hypocrites sont en général assez toxiques parce que comme ils mentent, normalement c'est assez compliqué. Tout le monde est un peu toxique à un petit pourcentage de quelqu'un ou de vous-même. Ou des fois, dans des périodes, on peut être aussi toxique parce qu'on est en colère. Donc, il ne faut pas croire que personne ne peut dire. Après, vous avez aussi le fouillard, celui qui disparaît, celui qui ne veut rien dire, celui le silencieux, qui ne vous donne pas de réponse, il vous fait souffrir. C'est une toxicité aussi de ne pas répondre, de ne pas communiquer avec les autres. L'indécis. Ah, l'indécis, c'est quand même très compliqué parce que tu veux aller quelque part, je ne sais pas, voilà. Ou le fait de ne pas savoir dire non aussi, c'est très important. Il faut savoir dire non, il faut savoir aussi dire oui, et il faut savoir dire je ne sais pas, et il faut savoir dire peut-être. Donc, vous voyez, il y a des façons de répondre justement à la manipulation et à tout ça. Vous avez la bombe à retardement, ce sont des gens qui se chargent de haine, d'énergie négative et à un moment venu, on explose. Après, vous avez les commères, celui qui est le commérage. Bon, j'ai dit clairement dans l'Amérique latine, ils sont champions de l'Afrique. Je pense qu'on est champion pour passer des... Il part un bouton tout seul, à l'autre côté, il a le manteau complet. Parce qu'on va ajouter des choses, et c'est partie de la culture. En Amérique latine, c'est un petit peu comme ça. Après, vous avez aussi les moulins à parole, c'est un peu moi, quand on parle trop, et des fois on se perd, on a un brouillard, et on peut se perdre aussi. Donc, vous voyez déjà qu'il y a pas mal de personnes toxiques. Et je dirais aussi que dans les personnes toxiques, en général, ce n'est pas n'importe qui va être récepteur des personnes toxiques. Plus vous êtes faible, plus vous êtes, vous avez trop de sentiments, plus vous allez être la proie des personnes qui sont assez toxiques. Il ne faut pas oublier que les personnes toxiques aussi sont les liens un petit peu. N'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? Que tout chacun de nous, on a des problèmes qui va réveiller, par exemple, une claquement de porte, il va me faire penser la mort de ma grand-mère, par exemple. Donc, on va avoir des ancrages où quelqu'un va bouger les yeux, il va croire que c'est ta tante qui est engueulée. Donc, on voit aussi qu'il y a une communication. Et cette communication, il ne faut pas oublier que c'est 50%. Il est visuel, 7% verbal et 55% visuel. Ça veut dire que tout ce qu'on dit, ça va être le rythme, la voix, tout ça. Et les paroles, les mots que j'utilise, c'est 7% de cette communication. Et plus vous connaissez la personne, plus ce que je suis en train de dire change. Donc la manipulation, évidemment, c'est une des choses. Les blessures que chacun il y a, on a un livre qui s'appelle « Les blessures qui nous empêchent d'être heureux ». Les rejets, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison, ce sont des choses aussi qui vont nous faire souffrir et qui peut-être les personnes toxiques vont profiter de ces choses-là pour nous massacrer. Donc on va commencer, pour ne pas faire trop long, tout de suite on va commencer avec quelques témoignages de toxicité ou des personnes toxiques. Peut-être c'est pas vous, peut-être c'est une amie, peut-être c'est là. On va commencer par Laura. Laura, la parole est à toi.
Merci beaucoup, Victor.
On va gérer un peu les micros. Oui, on va faire le tour comme ça. Voici.
Est-ce que là, est-ce qu'on m'entend ? Je pense que oui. Alors, moi, mon témoignage, c'est un témoignage personnel que j'ai vécu. En fait, j'ai subi de l'harcèlement depuis toute petite, pendant 6 ans, par une personne qui était assez toxique pour moi. Je pense que cette personne, elle avait ce besoin de contrôle. Elle avait pas mal de traumatismes que malheureusement, elle a dû, faire impacter et mettre une patate, on va dire, sur moi. Et qui a fait que malheureusement, j'étais un peu sous l'emprise de cette personne pendant 6 ans. Vraiment, c'était une personne qui était... À ce moment-là, j'étais pas mal faible parce que j'étais toute petite. C'était en primaire que ça m'est arrivé. Et cette personne, c'était quelque chose qui était assez traumatisant pour moi et que... Forcément, quand on a une faible estime de soi et que forcément, cette personne sait sur quoi appuyer, là où ça fait mal, forcément, c'était un épisode assez chaotique pour moi. Mais pour le coup, je sais très bien que cette personne, maintenant on n'est plus en contact actuellement, et c'est très bien. C'est aussi pour moi une solution à ce que on se protégeait de soi-même, que ce soit de ne plus être en contact avec la personne, donc de faire du no-contact.
Déjà, tu viens nous donner, Laura, un conseil
oui,
qui est peut-être en face de la toxicité des gens. Aussi une solution, c'est s'éloigner parce qu'on n'est pas capable de faire face.
Exactement.
Donc, c'est une solution.
Oui.
Si tu as fini.
Oui,
voilà, je vais passer tout de suite la parole à Sarah qui va nous raconter une autre histoire, un ami, c'est peut-être la tienne, c'est pas important. L'important, ce sont les témoignages.
Alors oui, moi j'ai, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais j'ai l'habitude de prendre tout ce qui est de bon dans les situations qui m'arrivent, bonnes ou mauvaises, et j'ai une facilité à éloigner les gens qui ne me correspondent pas. Donc c'est vrai que je m'attache pas forcément à des gens que je trouve toxiques. Et j'ai la chance d'avoir des amitiés qui durent depuis très très longtemps et donc d'avoir un cercle qui me permet de pouvoir me sentir sécure et ne pas m'attacher à toute personne qui peut rentrer dans ma vie. Mais la toxicité que j'ai pu rencontrer, moi, c'est plus à la fin de mes études où j'étais confrontée à la non-réponse. Et c'était très compliqué de faire face à ça parce que c'est des gens qu'on estime d'un point de vue professionnel. Et donc j'ai eu des phases de recrutement où le processus était très 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 avancé. Et malheureusement, la non-réponse, je préfère une réponse automatique que la non-réponse parce que je trouve que la non-réponse, ça nous met face à une situation où on se remet soi-même en question. et on est dans une introspection où on se dit que c'est peut-être nous qui avons mal fait les choses. Et il y a aussi ce rapport d'autorité parce qu'on se retrouve à des personnes face à nous qui ont donc qui sont nos supérieurs ou des gens du coup avec une autorité sur nous. Et je trouve ça très toxique, même si j'aime pas forcément employer ce mot parce que je trouve qu'il est utilisé un peu dans toutes circonstances et pas forcément et parfois comme une excuse. Alors que parfois, c'est la situation qui crée la personne toxique. C'est une situation parfois que nous-mêmes avons créée et qui rend la personne en face de nous toxique. Et parfois, c'est seulement la personne en face qui est toxique seulement face à nous et du coup qui se joue de nos faiblesses ou parfois juste du temps qu'on a. Donc, c'est un peu ça.
Là, tu viens de dire quelque chose, Sarah, qui est important. On a les personnes toxiques en face de nous. Dans la vie normale, tu peux t'éloigner, tu peux dire bon stop, tu peux. Mais quand on est dans le travail, des fois c'est un peu différent. Des fois tu vas voir certaines toxicités, mais attention, des fois on croit que c'est la toxicité parce que toi-même tu es toxique avec toi. Ça veut dire que des fois on reçoit les choses d'une autre façon. Ça veut dire qu'on va recevoir des mots d'un père ou d'une mère qui t'aime. Il va être toxique peut-être, mais des fois il est juste autoritaire parce qu'il veut te donner de l'amour. Donc, ça va être aussi la réception entre deux enfants. Un enfant, il va sentir que sa mère est toxique et l'autre enfant va sentir juste que son père l'aime. C'est aussi réception de la personne toxique, c'est important aussi. Mais dans tous les cas, l'important de la perception de la toxicité, c'est quand on souffre. Maintenant, on va donner la parole à Sophie.
Oui, le tout aussi, c'est de se rendre compte qu'on est influencé ou soumis, ou qu'on est à une personne qui a des comportements toxiques vis-à-vis de nous. On s'en rend pas forcément compte. D'ailleurs, Laura, comment tu t'en es rendu compte que ça a duré quand même assez longtemps. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'en es rendu compte très rapidement ou il t'a fallu du temps?
Non, il m'a fallu énormément de temps quand même pour m'en rendre compte. C'est vrai qu'au début, c'est assez dissimulé. Donc du coup, forcément, on s'était dit s'il y a quelque chose qui cloche ou est-ce que c'est moi le problème? Parce que c'est ça aussi, la toxicité, c'est en soi involontairement tout prendre en soi et se dire est-ce que c'est de ma faute? Oui, exactement. C'est culpabiliser, de se dire est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi? Et forcément, c'est cette faible estime de soi que de base, je partais de zéro et que forcément, du coup, je me suis dit, c'est moi qui suis en tort.
Oui, donc toi, tu l'as pris pour toi, alors que Sarah, dans ton exemple et dans ta façon de... j'ai l'impression que tu as une façon un peu différente de voir les choses. Oui. Tu vois les choses de façon très positive et... tu t'es rendu compte rapidement que tu étais face à des comportements toxiques?
Oui, après, c'est vrai que j'ai cette facilité à beaucoup communiquer la manière dont je pense. Donc, en général, j'expose et je comprends quand c'est moi le problème. J'ai aucun mal à reconnaître mes torts. Donc, c'est vrai que quand je me retrouve face à une personne qui, elle, a du mal à reconnaître ses torts, je sais mettre directement une barrière. Et je sais aussi jauger. Après, c'est vrai que tout le monde a le droit à une seconde chance, tout le monde. Mais parfois, il faut aussi savoir ses limites. Et on parlait aussi de problèmes pathologiques, donc de problèmes psychologiques qui peuvent entraîner une personne qui devient toxique pour nous. Et comprendre, c'est bien, mais ça n'excuse pas tout.
Oui, peut-être, juste pour continuer, je ne sais pas si tu vas faire un témoignage.
Non, c'était juste une petite impression par rapport à vos témoignages. C'est le fait que peut-être, là, toi, Laura, tu parlais d'une période où tu étais plutôt enfant, adolescente, peut-être.
Tout à fait.
Toi, tu étais plus dans le milieu professionnel, donc plutôt jeune adulte. Peut-être que le niveau, la notion de confiance en soi et d'estime de soi vous parle dans la façon de pouvoir aborder en fait, ces différentes situations.
Moi en soi oui, enfin, c'est quelque chose qui me parle. Après c'est vrai que comme tu l'as dit Sophie, en soi c'est totalement différent. Sarah c'est du coup quand elle était jeune adulte, moi c'était quand j'étais beaucoup plus petite. Et c'est vrai que quand on est tout petit on comprend pas ce que c'est que la notion de confiance en soi, d'estime en soi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que quand on part de là, avec forcément de l'harcèlement et traumatisme, c'est vrai que on part de manière faible, on va dire, émotionnellement. Et c'est vrai que c'est pas simple.
Et peut-être, pour juste continuer, s'il y a des gens qui posent des questions, pour ne pas oublier qu'on est avec chacun de nous qui donne son opinion, et après on va ouvrir vers les gens qui nous... S'il y a des questions, tu nous diras s'il y a des questions. Donc, Moi, je vais juste donner deux exemples de situations un peu toxiques qui sont rapides, mais la première situation toxique, quand vous êtes, je parle des situations toxiques, je ne parle pas des personnes toxiques, parce qu'il y avait plein de gens toxiques. Quand j'étais en prison au Chili, la situation était toxique parce que tout le monde souffrait. Et quand tout le monde souffre, évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle la maturité. Vous savez que si à un moment venu, tu as vécu la prison pendant un certain temps, ou la dictature, tu vas grandir plus vite qu'un enfant qui, à 30 ans, va avoir des... Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a ce qu'on appelle la maturité. Et tout à l'heure, je ne voulais pas qu'on commence à nous questionner nous-mêmes, mais quand tu parlais, toi, pour venir, il y a des gens qui vont être plus forts parce qu'ils ont beaucoup plus souffert. Ils ont fait face déjà à des gens très tendus, très toxiques, et qui sont déjà entraînés pour les écarter. Ils sont plus forts. Et d'autres qui sont beaucoup plus faibles, qui vont prendre les mêmes types de personnes. Quand vous êtes en discothèque, vous avez le boutour qui est là et qui va aller vers vous parce que vous êtes trop gentil. Donc, vous êtes une proie des toxiques. Donc, vous voyez, ça va être un peu ce type de choses. Donc, la première, c'était en prison. J'étais en une situation toxique, une situation d'horreur. Et dans cette situation d'horreur, la seule solution en face de cette situation que je ne pouvais pas changer parce que j'étais là, c'était croire à l'amour, penser à ma fille, penser... Ma fille est tout petite, elle avait 8 mois. Donc, j'ai pensé à quelque chose qui me donne de la lumière. Donc, on dirait que c'est rien, mais c'est ça qui sauve la vie à beaucoup de gens. Ça, c'est la première situation. Et l'autre situation toxique que j'ai eue, des fois, bon, c'était... En général, les mamans, ils sont des moments, des situations toxiques avec nous. Parce que des fois, mon frère, il était beaucoup plus fragile que moi, donc je m'occupais plus de mon frère. Mais indirectement, tout en sachant que ma mère m'aimait, elle était un peu toxique avec moi parce qu'elle me faisait souffrir, parce que je voyais la différence. Je voyais la différence tout le temps. Donc, est-ce qu'elle le voulait? Non. Est-ce qu'elle est toxique? Non. C'était moi qui avais une réception de toxicité parce que c'est moi qui souffrais de ce manque d'amour. Est-ce que ma mère, il était toxique? Non, c'était moi qui avais une réception toxique sous une situation quelconque. Et c'est peut-être, j'aimerais parler plutôt, faire le tour un peu de table, que chacun de nous vous donne votre opinion, sans plus, sur les situations toxiques. En général, sans besoin de rentrer un témoignage, je ne sais pas si quelqu'un veut lever la main. Vas-y. Bon, donc on va donner la parole à Angelina.
Oui, alors c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les situations toxiques, c'est nous qui les créons. Et ça, je suis très d'accord avec toi, Victor. Parce que bah, moi aussi, j'ai vécu des situations toxiques, des relations ou des tendances, en fait, qui étaient toxiques. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est toujours la même chose, toujours la même histoire? Et en fait, c'était vraiment quelque chose de... C'était moi, en fait, qui me créait toujours cette situation. Et c'est pas... Enfin, l'objectif, c'est pas de blâmer non plus et de se dire « Ah, bah, c'est de ma faute si ça m'arrive, etc. » Mais c'est aussi de prendre conscience qu'on a toujours notre part de responsabilité dans toutes les situations et que bah, même si l'autre, il a la responsabilité aussi de se dire « Bah, en fait, peut-être que je fais du mal et... Enfin, voilà, peut-être qu'il faut que je change mon comportement par rapport à cette personne-là. Nous aussi, au final, on s'attire ces choses-là et on les manifeste dans notre vie par nos comportements, nos insécurités, nos peurs, etc. quoi.
Juste avant de donner la parole à Sarah, là, tu as dit deux choses qui m'ont tiré l'attention de façon globale. Quand tu as dit, première, tu as dit, peut-être c'est ma faute. C'est peut-être le premier pas de la toxicité envers toi. Je ne dis pas que non plus, il dit, ce n'est pas ma faute non plus. Parce que c'est aussi c'est une façon de dire, je n'ai jamais une faute, c'est les autres toujours les fautifs et pas moi. Donc tu peux, déjà quand on s'envoie un signal disant, c'est peut-être ma faute, si tu es en face de vraiment des toxiques, il ne faut jamais penser à ça. Parce que tu le donnes plus d'avantages à l'autre inconsciemment. Tu le donnes plus de... C'est un peu comme le syndrome de Stockholm. Vous savez qu'on va aimer son tortionnaire quelque part. Donc, c'est juste une remarque que j'ai faite sur ça. Donc, il faut faire attention que des fois... Par contre, il ne faut pas tomber non plus. Non, c'est moi qui ai raison, les autres ont tort. Non, c'est pas la... Parce que des fois, quand on décide quelque chose dans la vie, tu allais au cinéma. Et tu as ton copain qui dit oui, toi, tu dis non. Et vous allez au cinéma quand même. C'est pas une situation de toxicité, c'est une situation de choix vers l'autre. Et des fois, l'autre, il va le percevoir. Ah, il ne veut jamais faire comme je veux. Il fait toujours comme elle veut, mais Il faut que ce soit tout le temps comme ça. Si tu voulais parler... Vas-y.
Et après Sarah. Oui, j'ai peut-être pas assez nuancé mes propos, mais c'était juste pour clarifier. Mais oui, c'est sûr que c'est pas... Enfin, faut pas non plus... C'est ce que je disais, faut pas se blâmer, faut pas se dire « Ouais, c'est de ma faute si ça m'arrive. » C'est juste relativiser et voir que aussi on a notre part de responsabilité. Ça peut aussi nous permettre de prendre conscience qu'on peut sortir de cette situation aussi. Parce qu'en se disant « c'est hors de mon contrôle, c'est la personne qui me fait subir ça », il y a un peu ce truc de « je subis et je ne suis pas en capacité de répondre et de m'en sortir ». Alors qu'en prenant conscience qu'on choisit indirectement aussi d'être dans cette situation, on peut choisir d'en sortir. Je trouve qu'il y a un peu ce truc aussi.
Merci Angelina. Sarah va nous répéter le numéro de téléphone et oui. Après, il répondre. Donc, donnez-la sa position.
N'hésitez pas à appeler pour intervenir, donner vos témoignages ou poser des questions au 04 91 08 28 10. Et moi, de mon point de vue, comme je l'ai dit au tout début de l'émission, c'est vrai que j'ai de la facilité à me détacher de toute relation toxique, mais je suis la bonne oreille de beaucoup de mes copines et de beaucoup de gens dans la rue parfois. J'ai beaucoup d'inconnus qui aiment se confier sur des sujets, des secrets de famille parfois, c'est aberrant. Mais moi j'aime bien, je suis très curieuse, donc j'apprends des gens. Et dans beaucoup de situations toxiques, les gens attendent un point final et une explication de l'autre. Mais la problématique qui se pose parfois, c'est que la personne en face ne comprend pas comment tu l'aperçois comme toxique. Et c'est compliqué de se reconstruire dans une relation et dans une communication où il n'y a que toi qui as l'impression de cette toxicité et que la personne en face, elle a juste l'impression de vivre et d'être normale envers toi et d'agir normalement. Donc c'est vrai que c'est le plus compliqué pour rebondir et se construire après cette relation-là ou cette situation particulière.
Maintenant, on va donner la parole à Sophie pour qu'il nous rebondisse sur les situations toxiques en général, dans le travail, partout, même dans ton travail d'ailleurs.
Oui, moi le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est aussi leur capacité à se faire confiance et aussi à repérer en fait les indicateurs que notre corps nous donne. Quand on est dans un discours, c'est peut-être ma faute, j'ai mal fait, et que c'est un discours qui est redondant en fait et qui résonne dans notre tête, et qu'on a de la chance d'avoir des amis comme Sarah à qui on peut se confier, et que le message est très répétitif, il y a des petites astuces pour se permettre de s'écouter, en fait. Si on ressent ça et qu'on n'est pas forcément à l'aise dans cette situation-là, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas bon pour nous ou qui n'est pas agréable pour nous. Mmh. Autant dire ciao.
Mmh. Oui, ça c'est... Et on vous fait l'appel aussi à les gens qui sont connectés par Zoom. Si vous avez des questions, il y a Angeline qui va répéter la question, donc, ou en commentaire. N'oubliez pas qu'un psychodébat marche quand on est tous en train de parler. Donc peut-être je vais dire quelque chose pour rapport à la relation toxique aussi, à les situations toxiques. Et il y a quelque chose qui s'appelle, pour moi, jusqu'où je vais dans chaque situation. Même la situation la pire, je me demande, par exemple, je dis je suis dans une situation toxique et je reviens à la prison encore, pour aujourd'hui je ne sais pas pourquoi je reviens sur là. À un moment venu, ils ne nous donnent pas à manger, ils ne nous donnent pas à manger, ils ne nous donnent pas à manger. Donc, on sort la main comme ça pour demander du pain. Mais quand on donne la main pour demander du pain, au fond, c'est une toxicité. Parce que la toxicité, c'était nous créer, comme on dit, des gens qui nous perdent toute notre intégrité. Ça veut dire que faire de l'aumône, et les militaires, ce qu'ils voulaient, que nous, on soit dénigrés, qu'on soit pas. Il y a un moment venu. Et c'est là, devant ces situations toxiques, si vous voulez, j'ai eu un problème, si vous voulez, parce qu'à un moment venu, il vient dire, non, je retire ma main, parce qu'il y a ma morale, je pourrais crever de faim, mais eux, ils ne vont pas me dénigrer et ils ne vont pas faire perdre mes principes. Et j'ai gardé la main. Ce qui dit par là que dans des situations toxiques, et ça c'est peut-être valable pour d'autres choses. Oui, c'est extrême, mais dans la vie, on vit plein de situations de ce type qu'il faut savoir aussi. On peut être toxique malgré soi aussi. Ça aussi, c'est important. Une femme, je connais une dame, par exemple, qui était suicidaire, c'est des enfants. Il les aimait quand les enfants étaient mal. Il ne les aimait pas quand ils étaient bien. Parce que pour elle, comme elle était suicidaire, il voulait mourir. Et comme il voulait mourir. mourir, ils ne voulaient pas que ses enfants soient heureux. Donc quand les gens avaient besoin d'elle, c'était bien. Mais quand les gens étaient heureux, ça ne l'intéressait pas. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, on va continuer. Je ne sais pas s'il y a une question. Tu avais quelque chose à nous dire tout à l'heure. Je voyais le téléphone. Vas-y, Angéline.
Alors, il y a un témoignage d'une fille qui... Je lis le message. Hein. Donc, c'est qu'elle vit avec une fille qui a voulu imposer ses règles dans sa colocation avec une autre fille. Donc, ils étaient trois, de ce que j'ai compris. Elle a affiché les règles sur le frigo, sans en parler du tout avant. Et quand elle l'a vu, donc, elle a écrit sur le papier donc, pour répondre que ça serait mieux de trouver un moment pour en discuter face à face. Une fois debout, donc, parce qu'elle dormait apparemment, elle a raturé le message et remis le papier sur le frigo. Elle est donc allée essayer de lui parler, toquer à la porte, et en fait, elle lui a crié dessus de la laisser. Elle s'est rendue compte que le jour où elle a affiché les règles, elle a aussi quitté le groupe chat de la colocation. Et donc, grâce à la troisième colocatrice, elles ont pu se réunir pour parler des règles, etc. Elles n'ont pas reparlé de ce qui s'était passé et... voilà, tout était normal, qu'elle ne voulait pas de drama, etc. Enfin bon, normal. Oui, apparemment, cette personne donc, a un comportement quand même assez étrange. Elle ne dit pas bonjour, pas au revoir. Elle contacte les amis en commun que pour leur demander des services et ne s'est pas déplacée pour la crémaillère. Enfin, en automne, elle n'était pas venue à un événement très important pour elle. Elle ne voyait pas ce que sa présence aurait pu apporter, en fait. Et elle n'a même pas dit qu'elle ne venait pas. Beaucoup de choses se sont passées, mais voilà, c'est quelques exemples d'une situation un peu toxique.
Peut-être, Lab, je écoutais...
Oui. Juste, du coup, la question, c'est comment gérer une personne dont l'immaturité crée de la toxicité, c'est...
Oui. Et là, on a des milliers de situations qui sont situations courtes et toxiques. On va les traiter toxiques. Mais pour moi, et déjà, quelqu'un qui écrit, et normalement, quand on est en colocation, vous savez qu'on a un minimum de sympathie. Et quand on est en colocation, on parle avec les gens et en général, ça passe bien. Et évidemment, il y a dans une colocation, il y aura 3-4 personnes, une qui va être plus, qui ne va pas suivre les règles, et d'autres qui vont suivre. Et pour ça, la solution, c'est parler chacun avec les personnes, faire une petite, mais pas faire un jugé, pas faire un jury, de dire tu fais ça, tu fais ça, comprendre que chacun fait quelque chose, mais on est tous ensemble, on va mettre des règles. Et il y a toujours quelqu'un qui ne met pas les règles. Est-ce que je peux les considérer comme toxiques? Je ne sais pas. Parce que peut-être la personne est tout simplement tellement habituée à faire ce qu'elle veut, que tout à coup, il continue à être comme ça, et son attitude devient toxique pour les autres trois. Donc là, il y a toute la gamme de choses. Soit on trahit, on n'est plus avec elle, ou soit on est avec elle, il se plie au minimum de règles. Quand on est une communauté, il faut se plier au minimum de règles. Est-ce que c'est la toxicité? Je ne sais pas.
Oui, moi je voulais dire que la situation, elle est très compliquée, parce que ce n'est pas une copine ou une camarade de classe, c'est une personne qui vit dans la même maison. Et c'est vrai que le statut de colocataire, c'est un peu bizarre parce que tu vis dans... Enfin, vous avez la même habitation, donc il y a un truc de communauté que vous devez gérer. Et c'est pas comme une famille parce qu'il n'y a pas un droit de pardon ou je sais pas comment on se le pose un peu dans la famille. Enfin, il y a un truc où il y a une espèce de plus de droit à l'erreur que les personnes de l'extérieur. Là, c'est quand même une personne de l'extérieur qui est dans ton intimité. Et elle parlait d'immaturité. Ben, je pense que parfois, tu relates les faits, tu essayes de parler, mais... La personne, ce n'est pas ton ami ou ta famille. Donc, au bout d'un moment, ben, tu dois faire avec et essayer de, toi, avoir le moins d'impact sur ta vie personnelle et peut-être t'éloigner et juste avoir ce rapport de personne qui vit chez toi et pas de personne que tu intègres dans ta vie, dans les événements, comme il a pu être cité dans le témoignage, par exemple.
Peut-être, juste pour aller vers quelque chose de plus large. Il y a des milliers de situations de toxicité, même à l'école, prête-moi ton stylo, et pourquoi tu ne me le prêtes pas? Il y a milliers. Pour moi, dans l'émission d'aujourd'hui, ce qu'on aimerait être, en général, la toxicité, c'est quelque chose de répétitif. Comme un manipulateur, c'est quelque chose de répétitif. Et ce type de choses, comme on se fait, tu t'es rendu compte beaucoup de temps après, c'est quand même du lourd. Après, il y a des situations qu'on vit ensemble qui sont des situations dans lesquelles c'est difficile à gérer. Mais il vaut mieux choisir, c'est comme en couple, il vaut mieux bien se choisir que choisir mal parce que vous allez souffrir. Je connais des toxicités de couple que je pourrais parler pendant 3 heures. Et des choses que j'écoutais, des toxicités de groupe. Mais c'est toujours la même répétition. Il y a un qui subit, l'autre qui fait quelque chose. Donc je ne sais pas s'il y a des questions dans... Voilà, on va continuer alors. Donc, on est en train de parler des personnes toxiques, des situations toxiques. Ce que j'aimerais vraiment savoir avec vous aujourd'hui, pendant qu'arrivent les questions, c'est la toxicité. On a parlé de situations toxiques. Moi, je pense plutôt à les situations toxiques de longue durée. Par exemple, on dit bien souvent qu'une personne dépressive, une personne qui va mal, peut être toxique. J'aimerais avoir votre opinion. Ce n'est pas une affirmation, c'est une proposition. Donc, vous me dites, tout le monde l'a vécu, je l'ai vécu, on l'a vécu avec des gens qui se suicidèrent, qui, dans lesquels toi, tu es affolé total, tu ne sais pas quoi faire, tu souffres, tu ne sais pas comment l'aider. Donc, on a des situations qui sont toxiques et parce qu'il y a un lien d'amour aussi qui t'y va avec la personne. Donc, j'aimerais avoir votre opinion, si vous levez la main. Ça m'aidera à choisir qui veut rebondir sur ça. Non, voilà. Bon, voici Sarah.
C'est une question délicate à traiter, les problèmes psy d'un proche. Parce qu'il y a ce truc de vouloir aider absolument. Et c'est compliqué d'être face au rejet de la personne. Parce que parfois, c'est même un appel à l'aide, le rejet. Mais c'est compliqué de comprendre. Et comme je disais tout à l'heure, comprendre, c'est pas tout accepter. Donc, il y a une espèce de carapace qu'il faut se forger aussi et pas être pleinement dans le don de soi parce que ça peut nous faire mal aller nous aussi. Ça peut nous impacter beaucoup plus que ce qu'on. Enfin, on peut encaisser beaucoup et se mettre à la place de la personne qui est en face de nous parce que la personne de nous en face de nous est malade. Donc, on a ce devoir d'aller mieux que la personne en face de nous et de la faire aller mieux presque. Mais en fait, c'est pas un devoir. Chacun aussi a sa part de responsabilité dans son état et on peut pas être le sauveur des personnes qu'on aime.
Ce que tu as dit, Sarah, ça va aider à beaucoup de gens parce qu'au fond, tu es entre avoir le cœur assez important pour tout donner, mais avoir l'empathie à un moment venu, de freiner cette empathie pour que tu détruises toi-même. Au fond, en deux mots, tu arrives à bien régler ces côtés-là, ou ça, tu arrives à les régler au mieux, on va dire plutôt. Et je trouve que c'est une bonne chose pour rapport à ce type de situation. Je ne sais pas, merci Angelina. Après, il y aura la pause musicale. Donc, avant la pause musicale, Sophie, il va nous dire quelque chose.
Oui, un petit exemple. J'ai un ami qui, il y a quelques années, a eu un passage de forte déprime, voire de dépression. Et du coup, j'étais présente pour lui. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des mois, en fait, moi, mon moral... son moral avait des répercussions sur mon moral et me faisait rentrer dans un état d'esprit un peu plus gris. Et donc du coup, je me suis rendu compte de ça et j'ai essayé de mettre en place des petites astuces pour être présente pour lui et également me prendre en compte. Et par exemple, quand on se voyait à l'époque, maintenant ça se passe plus du tout comme ça, par exemple, je lui donnais un rendez-vous, on allait boire un café ensemble ou il venait à la maison, mais je me donnais une période d'une heure et demie, 2 heures. Et après, j'essayais de me caler des rendez-vous pour me préserver à moi. Je peux, 1h30, 2h, je reste en lien avec mon énergie. Mais au-delà, moi, je me sentais totalement vidée, comme vampirisée de mon énergie.
Parce que quelque part, tu sais très bien qu'il était un point faible, qu'il y avait toi, il y avait Sarah et toi. Vous avez trouvé peut-être des façons de gérer ce que vous ne pouvez pas gérer au fond. Parce que c'est très difficile de gérer l'ingérable. Parce qu'ingérable, c'est gérer des choses qui sont liées à l'amour. Quelqu'un qui souffre, toi tu souffres, bon, et à un moment venu, il faut savoir jusqu'où on va. Bon, on va mettre cette pause musicale. Je ne sais pas qui va nous expliquer quelle est la musique que vous avez mis.
C'est moi qui ai choisi la musique. Ça s'appelle Serial Recluse. Ça parle de solitude et de la toxicité de vouloir se sentir seul quand on va mal.
Ah, c'est joli ça. Oui. C'est joli comme thème aujourd'hui.
Oui.
D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, le thème, ça va être la créativité pour être heureux.
I still get stuck here, deep in my mind, it gets rough here. Not safe, I can't open up here. All of the places to run, 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 run. When the going gets tough, talk to my places when I've had enough. Dreams full of faces, I only know of. Run.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Psychodébat. Cette émission, si vous voulez, traite un peu tous les problèmes, bonheur, malheur. Et aujourd'hui, c'est un petit peu les personnes toxiques. Et la semaine prochaine, ça va être la créativité, comment on peut nous rendre heureux. Donc, aujourd'hui, on est avec Angéline, avec Laure, avec Sophie et avec Sarah. Et Sarah va vous répéter le numéro de téléphone parce que vous avez la possibilité pendant cette demi-heure soit nous poser une question ou soit tout simplement faire un commentaire sur les personnes toxiques. Pas besoin de donner votre témoignage. C'est peut-être témoignage, c'est quelque chose que vous avez vécu et une amie. Donc, on est là pour échanger. Et s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de psychodébat. Donc, on va essayer de garder ça. Normalement, pour que vous sachiez, le psychodébat, on le faisait avec 40 personnes, 50 personnes, et on continuera à les faire en présentiel. Aujourd'hui, on a mis en place cette émission pour que tous les gens qui souhaitent parler de vos problèmes ou de vos témoignages, on est là. Donc, on va continuer tout de suite. Moi, ce que j'aimerais, maintenant, on parle des personnes toxiques, des relations toxiques. Comment tu peux identifier aujourd'hui, c'est la question pour vous, pour tout le monde, quel est votre détecteur? Tout à l'heure, on l'a dit un peu. Hein. On a dit comment se défendre, jusqu'à où tu acceptes les choses. Mais quel détecteur tu as? Parce que chacun aussi, on attire certaines personnes toxiques, pas tous les toxiques. Et les manipulateurs, ils savent où ils vont aller. Ils ne vont pas n'importe qui. Quand il y a un caractère comme Sarah, ils vont s'éloigner très vite. Et 90%, ils s'éloignent avant d'arriver. Parce qu'il y a un caractère déjà plus fort. Plus... Donc la question que je vous pose, comment vous détectez vous, les personnes toxiques? On va commencer par qui? Par Sarah. Après Sophia, après Laura et après Angéline.
Alors, moi, je suis très curieuse de tout, donc je parle beaucoup aux gens. Donc, en général, je pose beaucoup de questions. Et les personnes qui sont beaucoup dans le reproche d'autrui, le fait de ne pas se remettre en question, les personnes très facilement frustrées, parfois c'est pour des petits détails, mais qui, c'est très répétitif, c'est pas forcément juste, et qui ont du mal du coup à prendre du recul sur beaucoup de choses. Parfois c'est juste parce qu'on a une sensibilité différente, et ça c'est tout à leur honneur, mais il y a aussi ce truc de projeter sur les autres son mal-être, beaucoup. C'est pas forcément pathologique, je parle du fait que tout est de la faute de l'autre et être dans le reproche constant. Donc moi, c'est quelque chose que j'observe dans la plupart des gens. Et aussi le trop, je sais pas comment dire, mais le trop de... Parfois c'est le trop d'amour, parfois c'est le trop de colère. Mais quand il y a un trop qui se généralise assez facilement chez une personne, j'ai tendance à facilement prendre mes distances.
Oui, non, mais moi je te connais un petit peu, je vois que tu as une bonne façon de faire face aux choses, mais je dirais aussi qu'il y a quelque chose qui t'a dit qui me résonne un peu quand tu dis pas se mettre en question. Des fois on croit que l'autre, il ne faut pas essayer le monde. Il est là, toi tu es là, et tu te rends compte que l'autre ne se met pas en question. Et des fois quand on l'aime, on essaye de qu'il comprenne qu'il doit se mettre en question. Et des fois, la solution, c'est pas celle-là, et toi, tu l'as dit aussi, c'est que c'est pas qu'il t'abandonne, sinon que tu le laisses continuer à penser comme il pense, et c'est toi qui t'étais blande pour plus penser que l'autre se met en question, et toi, tu t'adaptes à ces circonstances, parce que c'est ta famille, c'est ton père, c'est ton tonton, c'est un ami, c'est un ami qui t'aime beaucoup, mais que tu sais qu'il est un peu déprimé, je sais rien, mais c'est juste te dire, se mettre en question, bien souvent quand on se pose trop la question, se mettre en question, il y a des choses que tout le monde me dit, change ça, Victor. Moi, je ne change pas parce que je ne veux pas me mettre en question sur quelque chose que j'adore et j'aime bien. Mais sur d'autres choses, de temps en temps, j'écoute, ah, pourquoi pas, on va changer ça. Donc, j'écoutais ça pour te dire un peu, pas pour analyser ce que tu as dit, mais dire que c'est quelque chose. Et toi, tu as déjà trouvé la technique parce que tu as une force pour savoir jusqu'à où tu vas. Mais il y a des gens qui ne savent pas où ils vont et c'est là qu'ils souffrent encore plus parce que toi, tu as une espèce de signal d'alarme, je ne sais pas où il est, mais pip, 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 et toi, tu arrives à dépasser ça, ça n'empêche pas que tu souffres quand même un peu. Sophie ?
Moi, je vais avoir, ça va dépendre en fait. Parfois, ça va être un ressenti un petit peu interne. Parfois, quand tu racontais ton histoire, je pensais à une ancienne relation de travail que j'ai pu avoir. Et une des actions que j'ai faites, c'était une... Alors, je sais pas, peut-être que vous avez déjà eu des relations de travail comme ça, mais des personnes qui arrivent tous les jours et qui se plaignent d'être au travail. Et où, vous voyez la réflexion, comment ça va, comme un lundi, mais qui peuvent le dire tout au long de la semaine. Et en fait, j'ai appris à ne pas alimenter en fait ses propos. Du coup, je ne posais pas de questions, je lui disais oui, et je ne réenclenchais pas la discussion parce qu'elle était beaucoup trop négative.
Mais ce que tu dis, c'est vrai, ça c'est une chose qui est intéressante, parce que dans les personnes toxiques, c'est qu'elles attendent une seule chose, ou les personnes qui vont faire des calomnies, ou les personnes qui vont attendre juste que tu leur réponds. Si tu fais la technique du judo, tu l'écoutes, oui, tout à fait, puis je comprends ce que tu as, et tu essaies de passer à autre chose, parce qu'ils cherchent une seule chose, qui te disent quelque chose pour te contrarier. Et comme on connaît ton caractère, des fois, ils profitent, surtout les gens très proches. Laura.
Alors, moi, en soi, je suis tout à fait d'accord avec l'avis de Sophie et de l'avis de Sarah. C'est vrai que le fait est d'avoir ce comportement, on va dire, de trop, c'est exactement, en fait... moi, en soi, pour détecter, on va dire, la toxicité d'une personne, c'est par le comportement. Et comme a dit Sarah, c'est aussi... par cette sensation de trop. C'est-à-dire, en soi, quand il y a ce trop-plein d'amour ou de négativité, moi, c'est quelque chose qui me fait assez fuir, en soi. Et pareil, au niveau relationnel, travail aussi, il y a pas mal de situations où je me dis vraiment, de par mon témoignage personnel, mais aussi par mon vécu, j'arrive un peu plus à détecter, on va dire, la toxicité des personnes, mais c'est vrai que ça reste assez subtil, je dirais. Mais je pense que c'est vraiment le comportement qui reste assez assez parlant.
Ce qui est intéressant, que vous dites tous, on a un ressenti. On a une deuxième moi qui est là, qui sait que ça ne va pas, ou il sait qu'il faut freiner une situation, peu importe laquelle. Peut-être on rate quelque chose, mais on a des capteurs. Et Angelina?
Alors, bon, pour moi, c'est pareil. Hein. C'est vraiment, je trouve, intuitif, quelque part. Il y a un ressenti, il y a quelque chose qui se passe et on ne se sent pas à l'aise ou on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne-là. Et c'est, enfin, voilà, on a le droit. On est légitime là-dedans. Ce que je voudrais ajouter, par contre, c'est plus par rapport à moi, ma toxicité envers des personnes. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai développé une technique, du coup, qui n'est pas forcément... Enfin, je ne sais pas, c'est la mienne, hein, mais je sais que j'avais tendance à être toxique avec des personnes pour qui je développais un intérêt romantique. Et en fait, c'était toujours un peu le même profil de personne. Et du coup, à force... je me suis dit, mais en fait, quand je vois que je commence à développer un intérêt un peu limite obsessionnel pour la personne, même si à la base ça semble être tomber amoureux, voilà, c'est normal, etc. Si j'ai l'impression que ça me prend trop d'énergie mentale, je me dis ok, stop, genre je prends de la distance et je fais tout en fait pour vraiment ne pas tomber dans le panneau et ne pas tomber dans le cercle vicieux qui va me mettre dans le mal en fait. Et où je vais avoir un comportement toxique envers moi-même. Enfin, c'est moi qui me crée toute une histoire dans ma tête et qui, voilà.
Tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant parce que ça a fait la transition pour ce que je vais vous parler. Parce qu'au fond, toi, quand tu parles de tout ça, on sent l'histoire. On sent quelque chose qui t'a vécu et qui, au fond, peut-être t'a décidé. Le mot que tu as caché derrière, c'est l'amour. Tu aimes bien l'amour passionnel et en même temps, cet amour passionnel, tu sais qu'il va faire mal. Parce que tu vas te soumettre trop et apparemment, tu as aujourd'hui des défenses, si tu préfères, tu sais, tu as des détecteurs, on va dire, on ne sait pas d'où il vient, et tu dis, bon, si même je passe à côté, moi pareil, pour rapport au travail, je vois des gens qui arrivent et qui, je sens qu'ils peuvent être des gens trop tendus, que je ne sais pas gérer, je préfère qu'ils ne restent pas au bureau, par exemple. Qui ne vient pas travailler avec nous parce que ça peut être... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on choisit un peu tous ensemble parce que ça, c'est plus... C'est, tout le monde a une opinion et j'écoute mieux les autres parce qu'on ne se rend pas compte parce qu'on est dans l'obsession de dire on va aider cette personne à la pauvre ou les pauvres. On va essayer d'aider et finalement, on tombe sur le panneau de quelque chose. Donc, je vais passer à quelque chose, à notre enfance. Parce que tous les problèmes qu'on a, il vient des problèmes toxiques d'enfance. Je vais donner le mien aussi à un moment venu, mais on va faire la même tour. Comme ça, s'il y a des questions, tu me diras, parce que je vois qu'il y a des questions. Dès que tu as des questions, bon, les gens qui sont dans le Zoom ne sont pas trop des questions. Tu peux répéter le téléphone s'il y a des gens qui nous écoutent.
Oui, bien sûr. Vous pouvez nous rejoindre en direct par téléphone au 04 91 08 28 10.
N'oubliez pas que les psychodébats, c'est vous aussi, et sans vous, on n'a pas de psychodébat encore, mais on y est. Voici pour notre enfance, notre problème psychologique d'enfance, toxicité.
moi, j'aime beaucoup mes parents. Et même quand je raconte des souvenirs d'enfance, beaucoup de gens me disent « Mais attends, tes parents, ils sont grave cool. » Mais oui, moi, j'ai grandi avec mes deux frères. Et ma maman nous a traités... pas mal sur un pied d'égalité, donc j'avais pas de sentiment de mise à l'écart. J'ai mon papa qui était pas tout le temps là pour le travail, mais j'ai pas ressenti de vide. Donc je pense que j'ai une très très belle enfance. Pourtant, on était des enfants qui faisaient énormément de bêtises. Donc je pense que mes parents, s'ils étaient colériques, ils auraient pu s'énerver souvent. Et on faisait souvent les bêtises ensemble aussi. Mais oui, donc moi j'avais un cocon familial assez bien défini et je me sentais protégée. Donc quand il y avait du mal qui m'arrive à l'extérieur, j'avais toujours ce moyen. Enfin, je trouve que c'est important quand il y en a des relations toxiques et une toxicité extérieure d'avoir un lieu de réclusion. Et c'est vrai que j'ai choisi une chanson sur la solitude, mais moi c'est un cadre dont j'ai besoin. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup
la
parler
aux gens.
La solitude
voulue.
Voilà,
la
j'aime beaucoup choisir ma solitude. Après c'est vrai qu'il faut faire attention et pas que ce soit une solitude qui soit néfaste pour nous. La musique, elle parlait de ça, elle parlait beaucoup de, du coup, s'isoler et même, du coup, faire du mal aux gens par cet isolement. Et je pense que je l'ai déjà fait malgré moi, mais j'ai aucune honte et aucune fierté à revenir vers les gens. Moi, je n'ai pas de problème avec ça.
Ça, c'est très important, la fierté. Des fois, la fierté ou les non-pardons, c'est un des problèmes de toxicité, des fois, avec soi-même, parce qu'on n'arrive pas à pardonner.
Oui, ben moi, ça, c'est un truc. J'ai fait une déconstruction depuis tellement d'années que si j'ai besoin de parler à quelqu'un, je le ferai.
Vous voyez, par exemple, Sarah, il a une grande force, mais en même temps, sa force, comme il est dans une concon, on va dire, d'amour, c'est aussi sa faiblesse, parce que c'est un jour, il sort de cette... Il n'y a pas ces groupes qu'il aime. Et en même temps, tu as plein d'amis, donc tu t'es créé des sauvegardes, on va dire comme ça. Et Sophie.
Moi, je remercie l'enfance et l'adolescence que j'ai eue, et ça a permis de forger l'adulte que je suis aujourd'hui, qui ait des côtés positifs ou négatifs dans mon évolution, personnelle. J'en suis très reconnaissante. Ça m'a permis de développer une certaine empathie, une certaine capacité à écouter et à entendre l'autre, à réceptionner ses émotions et avec le travail que je fais, à l'accompagner dans ses projets, dans ses objectifs pour se surpasser.
Bon, c'est bien. Après, c'est ton tour, Laura.
Alors, moi en soi, au niveau de la toxicité, donc dès mon enfance, pareil, je pense, selon moi, enfin, comme Sarah, j'ai grandi en fait dans un cocon familial qui avait. En soi, je rejoins aussi ton avis, Victor, mais c'est vrai que moi j'ai vécu aussi avec mon frère, c'est vrai qu'on avait un peu, pas on va dire un pied d'égalité, mais plutôt une différence, on va dire, niveau considération, que ce soit par rapport à ce que ma mère. Nous a fait vivre, on va dire, en soi. Mais c'est vrai que, comme Sophie, je pense, c'est au niveau de l'empathie aussi, ça m'a fait forger au niveau de mon caractère. Après, en soi, comme je l'ai dit de mon témoignage personnel, c'est vrai que j'ai grandi avec, on va dire, une petite faiblesse émotionnelle qui fait que forcément, j'ai connu en fait cette toxicité assez jeune. Mais pour autant, j'ai réussi à l'apprendre et vraiment plus le forger, on va dire, quand j'étais... adolescente et maintenant jeune adulte, et adulte maintenant, mais oui, du coup...
Si je vous parle de tout ça, je vais donner la parole après à Angéline, si je vous parle de tout ça, parce qu'au fond, on se rend compte qu'il vient souvent, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, évidemment, c'est peut-être trop d'amour, pas assez d'amour, mais c'est tout lié un peu à notre enfance. Il y a des gens qui ont une enfance un peu plus dure, peut-être plus de maturité, on va dire, mais c'est tout lié à notre enfance. Allez, Angéline.
Oui, alors moi je suis dans le même cas. Globalement, je trouve que j'ai une enfance vraiment super. Enfin, je suis très très heureuse de mon enfance. Je pense que si aujourd'hui j'ai encore j'ai des insécurités ou des choses qui me posent problème, c'est peut-être lié plus à des situations, des choses qui ont eu lieu en fait malgré elles et malgré tout l'amour que mes parents ils ont pu me porter. Notamment du coup mon père qui est parti vivre à l'étranger quand j'avais 7 ans et du coup qui a fait un gros vide en fait dans ma vie même s'il faisait tout pour être très présent et me démontrer tout l'amour qu'il avait, ça reste une grosse séparation et je pense que c'est sûr qu'en fait des fois il y a des petites choses comme ça qui sont très très marquantes, surtout pour un enfant, des choses qu'aujourd'hui on se dirait à notre âge, c'est ok, quoi. Mais en fait, pour un enfant, c'est un peu violent, quoi. C'est... Voilà.
Bon, je vais finir avec les histoires d'enfance. Peut-être, là, je vais dire quelque chose qui peut-être un peu qu'ont vécu beaucoup, beaucoup de gens. Et quand vous avez votre mère, qui vous êtes l'enfant de divorce, on les sent que vous n'êtes pas attendu. Parce que c'est l'enfant de plus, on va dire comme ça. Et ça, même quand on est tout petit, on se rend compte que quelque part, tu avais manqué d'amour, parce qu'on les ressent. Donc ça, évidemment, c'est dur. Mais après, je me suis rendu compte, et c'est là que j'ai compris un petit peu la différence entre la psychanalyse et le psychocomportementalisme. Parce que, en tant que psychanalyste, le manque d'amour il reste parce que tu ne l'as pas eu. Mon père est parti, mon beau-père s'est suicidé. Donc, tu restes sans l'amour des personnes que tu aimais. Et quelque part, si tu veux, avec le temps, et tu te rends compte finalement que ces choses-là t'ont fait grandir aussi. Ça veut dire que cette chose très toxique que tu as vécue, très dure que tu as vécue, à un moment venu, il te suit. Et le psychocomportementalisme m'a appris, un peu comme toi, Sarah, à avoir plein d'amis. J'avais des amis partout, je racontais des blagues, j'étais le clown, j'étais tout ça. Donc j'avais besoin de me créer, de ne pas être perdu. Il y avait beaucoup, beaucoup de groupes d'amis. Donc ça j'ai appris aussi à résilier pour rapport à ça. Et la deuxième chose, je dirais aussi, c'est mon beau-père qui j'avais 7 ans, et il s'est pendu vraiment. Et vraiment, c'était très terrible la situation. Et après, je l'ai emboulé parce qu'il m'aimait beaucoup. J'ai dit pourquoi il est parti. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre, je l'ai pardonné. Et quand tu pardonnes, tu te libères de tout ça parce que pour moi, c'était une personne toxique et pourquoi elle s'avait suicidée. Et en même temps, aujourd'hui, je comprends. Beaucoup de gens, pourquoi ils font cet acte-là? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment faire les choses. Et en même temps, je suis incapable, malgré que j'ai fait plein de conférences sur la psychologie depuis 25 ans, sur les psychodébats, tout ça, je suis incapable d'aider quelqu'un, parce que quand on est trop directement touché sur quelque chose, on est incapable de pouvoir aider les gens comme ça. Donc vous voyez bien que chacun de nous, dans notre enfance, on est en train de créer des personnes fragiles ou pas fragiles, ou des fois la colère, comme vous avez dit, d'être très toxique. Moi, j'aimerais qu'on reste 2 minutes, faire un petit tour et des paroles. On va donner la parole à Sophie, qui est venue là, à notre émission. Donc, c'était notre invité. Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission? Et après, Sarah.
Je l'ai trouvée fort intéressante. Merci pour les différents partages. Merci pour l'invitation. Une thématique qui reste à travailler et à approfondir et à rester aussi en lien avec nous, avec soi, pour être un peu vigilant des comportements toxiques qui peuvent émerger des personnes qui nous entourent.
Et toi, Laura, après Angéline, après moi, j'avais te laissé donner la fin pour annoncer les prochaines émissions.
Alors moi, c'est déjà encore merci pour l'invitation, Victor, pour ce sujet qui est, comme dirait Sophie, qui est encore une fois un comportement à surveiller et qu'il faut être vigilant au niveau de ça, parce que c'est encore un sujet actuel, on va dire, en soi, et vraiment, quel plaisir encore une fois d'être parmi vous et d'avoir pu apporter mon petit témoignage et mon petite opinion.
Après, c'est Angelina.
Oui, merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment super intéressant. C'est pas un sujet que je maîtrise totalement ou qui me touchait le plus, mais
il y a aucun sujet qu'on maîtrise totalement.
Oui, non, il y a aucun, mais j'avoue que c'était pas celui qui m'inspirait le plus à l'origine. Ouais. Et au final, je suis quand même agréablement surprise.
Je voulais peut-être juste vous dire, n'oubliez pas que nous, on a fait ces psychodébats depuis longtemps. Et présentiel, donc si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter aussi. Et les prochaines, je voudrais 2 mots, je serai très attentif. On va parler de la créativité et notre bonheur. Comment, en étant créatif, on peut être heureux? Et maintenant, la parole, le mot de la fin, ça va être Sarah.
Oui, moi, déjà de base, j'ai beaucoup de mal avec le mot toxique parce que toxique, c'est beaucoup qui nuit à la santé. Mais je trouvais ça très intéressant d'aborder ça sur différents angles. Ça a rendu le débat beaucoup plus intéressant et voilà. Mais je suis contente d'avoir participé à ce débat et ça a permis de m'ouvrir sur plein de sujets et d'avoir plein de témoignages. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour le sujet de la créativité. Donc ce sera beaucoup plus positif.
Là, vous pouvez...
Voilà, et on aura beaucoup de moyens de s'exprimer et on aura aussi les sujets des vacances après. Je pense qu'on sera dans le thème, bientôt l'été.
Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Les 2 thèmes qu'il avait choisi déjà un petit peu.
On fera un thème sur la pression psychologique face à la scolarité et grandir avec différentes cultures. Ça, c'est intéressant sur Marseille.
Voilà, vous avez 2 thématiques. Ici, vous souhaitez peut-être participer. Aujourd'hui, vous avez un psychologue qui devait participer. On ne l'a pas donné la parole ou il n'était pas là. Voilà. Merci beaucoup à tous. Si je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Et merci à Sidi, parce que Sidi, il est là à la régie. C'est lui qui donne la parole, qui bouge les micros et tout. Et s'il y a une erreur, c'est lui. Non. Merci Sidi aussi.
Merci.
Merci.
88.4.